Le match numéro 2 de la finale de la Coupe Stanley sera disputé ce soir au T-Mobile Arena de Las Vegas. Mais au-delà du parcours sportif inespéré, les Golden Knights se sont imposés comme une des références marketing de la Ligue nationale de hockey cette année. Et on en parle avec Luc Dupont, professeur de marketing à l'Université d'Ottawa. Salut Luc!
Bonjour Eve-Marie!
Alors, on va regarder ça ensemble, l'histoire des Golden Knights de Vegas. On a tendance à oublier que c'est la première franchise de sport professionnel à Las Vegas. Puis au début, il y a des gens qui ont dit « ça va pas fonctionner ». On peut dire qu'ils ont eu tort, hein?
Oui, absolument. Puis je me souviens même de l'avoir vu sur Twitter, dans certains cas même, des observateurs que j'estimerais être généralement bien informés. Évidemment, dans ce cas-ci, bon, c'était un petit marché, à peu près 650-600 000 personnes. Je parle du centre-ville essentiellement parce qu'on aura compris qu'évidemment, dès qu'on regarde ça d'un petit peu plus haut, assez rapidement, on franchit le cap du million. Beaucoup de gens qui sont de passage. Mm-hmm. Au Nevada, t'es là, tu travailles quelques années et puis tu finis par te déplacer. Mais le facteur numéro un, la raison fondamentale, pourquoi il n'y avait pas d'équipe, curieusement, à Las Vegas, c'est toute la question du jeu, hein, de l'industrie du jeu, ce qu'on a appelé longtemps aussi le crime organisé, parce qu'il faut savoir qu'effectivement, pendant longtemps, Las Vegas était aux mains du crime organisé. Bon, éventuellement, des multinationales ont fait l'acquisition de la plupart de ces grandes bannières-là, si bien que maintenant, tu retrouves quelque chose comme 3 joueurs d'importance, là, peu importe les casinos que tu visites, là, à la fin, c'est comme s'il y avait Pepsi, Coke, puis il y en avait un autre, là, Dr. Pepper, mettons, là, on ferait le tour, peu importe comment on se déplace. Moi, je me souviens même à l'époque où je travaillais pour les Nordiques, au début de la saison, la GRC venait rencontrer les joueurs des Nordiques pour leur parler des dangers des paris illégaux, des gens qui sont dans l'industrie des paris également.
Oui,
à chaque saison, au moment de le début de la saison, là, durant les matchs hors concours, puis on faisait comme ça, ils les rencontraient chacune des équipes canadiennes à tour de rôle pour leur expliquer tout ça. Puis on sait que du côté européen, ça pose problème. D'ailleurs, ça, là, le fait que les gens puissent parier
ouais,
pour les matchs.
Puis je te fais une parenthèse. On rencontre les joueurs parce qu'ils sont pas à l'abri, par exemple, de pots de vin, fait exprès de perdre le match pour faire gagner des paris. Est-ce que c'est aussi dans cette optique-là qu'on les rencontrait?
Oui, certainement. Et on l'a vu par le passé dans certains sports. Ça s'est révélé parfois exact. Là, je pense au soccer. Puis on l'a même vu dans le basket, un arbitre de la NBA qui a été comme ça impliqué dans des paris illégaux. Alors tu peux imaginer que l'arbitre, à bien des égards, s'il voulait être mal intentionné là, pour faire gagner une équipe plutôt que l'autre, ce serait assurément possible. Bon, lui a prétendu par la suite qu'il n'avait jamais parié ou sur des matchs dans lesquels il arbitrait là, mais sur le terrain, c'est très difficile de vérifier tout ça. Puis on l'a vu dans le baseball aussi déjà par le passé. Pete Rose, pour pas le nommer, qu'on a bien connu à Montréal, ouais. Ben lui aussi a eu ces problèmes là tellement que même encore aujourd'hui, on l'a pas encore réinséré dans ce que j'appellerais la grande famille du baseball. Alors, un dans l'autre, ça explique assurément pourquoi Vegas n'était pas là. Puis, ça prenait quelqu'un qui était un petit peu plus brave, et c'est Gary Bettman, qui soudainement passe pour un génie. Un, d'avoir donné une équipe, attribué une équipe à Vegas. Puis deux, d'en avoir attribué juste une. Puis, je comprends que c'est délicat de dire ça à Québec, mais comme il y avait une équipe, ben ils sont allés chercher au fond les joueurs pas trop intéressants de toutes les équipes, mais le premier étage de ces joueurs-là. Mm-hmm. Alors, on peut imaginer que si on avait eu deux comme ça, équipes, et Québec et Vegas, dans les deux cas, ben, on se serait séparés ces joueurs-là. Puis ça me permet de dire, Eve-Marie, que il y a la ville, mais il y a l'histoire de sport aussi qui est formidable, hein, parce que sur le plan de ce qu'on appellerait de la culture pop, là, la structure mythique, les gros mots du jour, mais ça fait toujours une bonne histoire quand on a un groupe de gens qui ont été rejetés par tout le monde.
C'est sûr, ben oui. Et puis qui se retrouvent. Puis il y a aussi, faut pas, je pense dans l'équation, puis tu me corrigeras, là, mais il y a eu le drame à Las Vegas aussi, au début de la saison, cette tuerie lors d'un spectacle country, et il y a eu un effet rassembleur dans l'équipe de hockey en disant « Nous autres, on va relever le moral des troupes avec notre existence, puis on l'espère avec nos victoires. »
Oui, puis très rapidement, ça leur a permis de s'immiscer dans la communauté, puis ils ont posé un geste qui, sur le plan publicitaire, est unique à ma connaissance. C'est que lors du match suivant, ils ont enlevé tous les panneaux publicitaires sur la bande de patinoire. Mm-hmm, mm-hmm. Alors ça, tu peux imaginer comment ça a-tu coûté en termes de fric. Évidemment qu'on s'est certainement entendu avec les annonceurs en disant, écoutez, un dans l'autre pour l'image, pour nous, pour vous également, ça serait probablement une bonne idée. Ça va faire jaser également. Reconnaissons que sur le plan des relations publiques, c'était certainement pas une mauvaise idée, mais ils ont posé ce geste-là qui était pas facile a priori. Sur le plan aussi des contacts avec les amateurs, Ben, je regardais récemment là, le Twitter du Canadien de Montréal. Il y a des gens qui disent au Québec, ils sont devenus un petit peu étonnants, c'est-à-dire qu'ils se prononcent un petit peu plus. Des fois, ils sortent des sentiers battus, ils prennent des risques également, mais ils se sont inspirés d'une équipe toute simple. Ils se sont inspirés de Vegas, qui, elle, le fait depuis le début de la saison. On a vu, par exemple, sur le compte Twitter des Knights, la personne qui s'en occupe, insulter, par exemple, des fans des autres équipes. Ça, t'aurais jamais pu imaginer ça. Avant, quand quelqu'un disait quelque chose de pas gentil sur Twitter, il fallait que tu lui répondes gentiment, de manière gentille, bon, pour essayer qu'il répète pas l'expérience. Mais dans ce cas-ci, non, carrément, on était irrévérencieux. Puis les premières semaines, les premiers mois, on était surpris. Mais qu'est-ce que c'est ça, cette façon de gérer le compte d'une équipe de sport professionnelle? Mais à la fin, ça leur a très, très bien servi. Puis on est tout le temps hors des sentiers battus. Les shows de début de match sont écœurants.
Donne de l'émotion, hein?
Oui, puis c'est formidable. On l'a fait avec les Kings de Los Angeles. Ça ressemblait beaucoup au Seigneur des Anneaux. On l'a fait avec les Jets. Un avion, c'est pas évident de passer une histoire avec ça. Puis on l'a fait plus récemment, évidemment, avec les Capitals puis l'Aigle. Puis ça donne des concepts le fun. Et ça nous rappelle que les autres équipes, peut-être, manquent un petit peu d'imagination. Peut-être que ce serait le temps de relever d'un cran le jeu. Je pense à Los Angeles, parce que bon, j'entends des gens me dire « Oui, mais on peut pas faire ça, nous autres, ce qu'ils font à Vegas, parce qu'ils ont accès à ceci, ceci, cela. » Mais c'est sûr qu'on a toujours une bonne excuse quand on veut pas le faire, mais les Kings de Los Angeles, c'est Hollywood. Qu'est-ce qui leur empêcherait d'en rajouter un petit peu plus, puis d'en mettre un petit peu plus? Mais ils l'ont jamais fait par le passé. Et ça veut aussi dire que à trois coins de rue de chez nous, à Montréal, c'est correct les applaudissements enregistrés puis les cris enregistrés, mais il va falloir aller un petit peu plus fort que ça.
Ben oui,
et ça, c'est le défi de la prochaine saison.
Il y a une pépinière artistique majeure à Montréal. Là. Tu sais, tu penses à Moment Factory, ils ont déjà collaboré, mais ils pourraient amener ça à un autre niveau, c'est certain. Ça prend une volonté, ça prend un investissement, ça prend de l'argent. Justement, Vegas est en train de montrer qu'il faut faire les choses différemment. Et est-ce que le fait qu'il y ait tellement de divertissement d'offert à Las Vegas, l'équipe avait pas le choix aussi de se positionner? C'est-à-dire que, venez nous voir, nous autres aussi, on donne un bon show. Ils compétitionnent contre des artistes en résidence dans des casinos, ils compétitionnent contre les spectacles du Cirque du Soleil, contre Céline Dion. Est-ce qu'il y avait, tu penses, cette volonté-là de se démarquer avec l'offre de divertissement?
Oui, certainement, parce que la compétition est très, très forte, donc la barre est beaucoup plus haute. Puis ajoute à ça la compétition uniquement jeu. Quand on pense à Vegas, bon, il y a les casinos, mais il y a Macao aussi qui est un territoire qui est très important. Les Asiatiques se sont beaucoup déplacés de ce côté-là. Le jeu en ligne, à partir du moment où les gens peuvent jouer en ligne, qu'est-ce que tu vas raconter que tu pouvais pas raconter avant? Il va falloir que tu trouves quelque chose. Les paris sportifs, tu parlais de la tuerie également. Puis tout ça a amené Vegas à concocter une campagne publicitaire qui a été lancée la semaine passée, que je trouve fort originale. Et pour la première fois, on abandonne ou on laisse de côté là, ce qui se passe à Vegas reste à Vegas.
Il existe depuis quand, ce slogan-là, « What happens in Vegas stays in Vegas » ?
Ah, il est depuis à peu près les premiers moments de Vegas, quand on jette un coup d'œil là-dessus.
Okay.
Dès le début du crime organisé, là, parce qu'il faut savoir que c'est une ville qui a été créée, mais sans blague, avec l'argent du crime organisé qui se disait... Puis ça coïncidait aussi avec, souviens-toi, Cuba. Cuba était très, très fort là-dessus aussi. Mais quand est arrivé Fidel Castro, qui a pris le contrôle, ben on a chassé les casinos, qui étaient souvent des casinos qui étaient possédés par des Américains. Alors, on a dit qu'il faut qu'on déplace cette industrie-là ailleurs. Et ça a coïncidé avec le développement important, massif de Vegas. Et le danger avec le fameux slogan en question, c'est qu'on avait fini par positionner cette ville-là comme la place de la foire. T'es une gang de gars, tu veux foirer. Vegas, t'es une gang de filles, tu veux foirer.
C'est ça.
Vegas, et même dans la culture pop, mal de tête, les films 1, 2, 3, le Hangover, c'était ça dans le fond. Hein? C'est l'idée d'un gars qui est tellement chaud qu'il perd une dent si c'est pas deux. Il se réveille avec un tigre pas loin, puis il y a un bébé dont il ne connaît pas le propriétaire. Alors ça, c'est peut-être, c'est le fun, c'est amusant, c'est rigolo, mais chaque fois que Vegas voulait s'annoncer au Super Bowl, qu'est-ce que répondaient les autorités de la NFL? On aime ça, c'est bon, mais pas pour le Super Bowl, pas pour un
croche.
Public.
Ouais.
C'est fait, effectivement, il y a un grand public. Alors, ça les amène à réfléchir à tout ça. Puis, ils ont pondu une campagne de pub qui a été lancée la semaine dernière, que je trouve géniale, où là, tu as tantôt un couple qui se relance, hein, un couple qui connaît des difficultés. Ça peut arriver. Il y a des hauts puis il y a des bas dans la vie de couple. L'autre concept que je trouve fort original, qui sort complètement des sentiers battus, un voyageur seul, en fait, c'est une femme qui se déplace à Vegas pour une rencontre d'affaires, puis on lui apprend au moment où elle arrive que la rencontre d'affaires n'aura pas lieu. Alors là, elle se pose la question, qu'est-ce que je fais ici? Après tout, dans ma tête, Vegas, c'est la ville de la foire, mais moi, je suis tout seul. Je fais quoi? Alors, on découvre qu'il y a un paquet de choses à faire en parallèle du jeu, puis ça nous amène, ou ça nous ramène, en tout cas, assurément, au sport professionnel. Et puis, tu as aussi un couple de lesbiennes qui décide de se marier. Alors, l'idée, c'est quoi ici?
On c'est a l'ouverture longtemps d'esprit.
Oui, puis on a longtemps fait la vente de Vegas en disant c'est les couples hétéros qui veulent se marier, mais on avait peut-être oublié une autre clientèle. Ouais. Alors, un dans l'autre, des gens qui voyagent seuls. Je suis certain que tu as autour de toi des gens qui vivent seuls. Et j'ai autour de moi quelqu'un qui voyage toujours seul. Moi, il est célibataire, il est seul, mais il voyage beaucoup, beaucoup. C'est probablement la personne que je connais qui voyage le plus. Mais il n'y a aucune destination qui lui parle. Alors, soudainement, Vegas fait ce travail-là.
Mais
alors,
oui.
Quand on regarde ça, l'offre devient très importante. C'est le sport, c'est la Ligue nationale. Dans deux coins de rue, c'est le football. Ils ont déjà le hockey. Puis bientôt, c'est la NBA et c'est le baseball. Imagines-tu ces deux ligues-là, comment ils se disent « Oh, qu'on est passé à côté! »
Ouais, mais là, ils sont en train de rattraper le temps perdu. Mais tu sais, pour le club, les Golden Knights, pour l'instant, c'est facile à vendre. En plus, ils ont du succès. Hein? Les performances sont bonnes. Ils se retrouvent en finale de la Coupe Stanley. Mais pour la suite des choses, il va falloir qu'ils maintiennent la cadence côté performance, mais aussi maintenir la cadence pour le côté marketing de l'équipe.
Oui, et ça sera assurément pas facile. Puis ils le savent pas encore, mais il y a des bonnes saisons dans le sport professionnel, puis il y a des mauvaises saisons. Hein? Ça aussi, on a vécu ça à Québec, des saisons extraordinaires avec les États-Unis à une autre époque. Puis des saisons un petit peu plus difficiles avec quelques victoires qu'on peut compter sur, mettons, deux mains et demie. Alors, c'est pas facile. Et ça, tôt ou tard, ça va arriver. Bon, on leur souhaite pas là, vite, là, comme ça, mais manifestement et visiblement, je les regardais chanter, là. Ils ont beaucoup de plaisir. Et t'as vu lors du premier match de la série finale la Coupe Stanley, quand on a salué les gens présents dans la salle et les gens partout à travers le monde, les millions de téléspectateurs qui voudraient probablement être avec nous autres. Et j'ai trouvé ça très, très humoristique. Et tu vas me permettre une autre petite remarque, Eve-Marie, rapide, mais quand il dit « Let's go to Rumble! »«
Let's get ready to Rumble! » Michael Buffer, exact. L'annonceur officiel de la boxe.
Exact. Ça, il l'a enregistré, cette phrase-là. C'est un trademark. Alors, si tu l'utilises, il faut que tu l'engages. Ou sinon, il faut que tu payes les droits, absolument. Il a enregistré une phrase. C'est assez unique dans l'histoire du marketing. Alors, je l'ai vu aller au début du match. Puis moi, je vais te dire ce que j'ai vu. J'ai vu la business et je me suis dit, comment il a chargé pour ça? Parce que ça a dû coûter une fortune, la petite phrase en question.
Oui, mais money is no object quand c'est le premier match de la finale de la Coupe Stanley pour Vegas.
Spécialement à Vegas,
Oui. Je vais te parler d'autre chose qui concerne les États-Unis. Et t'as vu avec Starbucks, la chaîne de café hier a fermé 8000 succursales américaines pour faire sa fameuse journée de sensibilisation au racisme. Une initiative qui faisait suite à l'arrestation de deux hommes noirs dans un café Starbucks en avril dernier. Deux hommes qui étaient simplement là pour un meeting d'affaires. Mais est-ce qu'ils avaient le choix, Starbucks, de faire ou de ne pas faire cette journée-là?
Je ne sais pas s'ils avaient le choix, parce que bien d'autres entreprises auraient probablement fait autre chose, mais dans ce cas-ci, ce que je trouve intéressant, c'est d'avoir posé ce geste-là, qui est un geste sans appel, après tout. C'est pas mitoyen, là, fermer une entreprise, carrément. Tu peux imaginer le chiffre d'affaires, les millions de dollars qui sont perdus. Mais par ailleurs, bon, assurément, les investisseurs se disent, voici un événement, un événement, qui va normalement pas se répéter. Alors, on le budgète comme ça sur le plan des actionnaires et des investisseurs, mais sur le plan de la visibilité, là, ce que ça a pu générer à travers le monde là, comme talk, évidemment, ça a pas de prix. Mm. Et ça a permis, en tout cas, très rapidement à l'entreprise de se positionner comme une firme qui était sensible à ces réalités-là. Et Starbucks, historiquement, oui, ils vendent du café, mais en réalité, ils vendent beaucoup plus que ça, puis ils vendent probablement bien d'autres choses que ça.
Qu'est-ce que tu veux
sur
dire?
Sur le plan du positionnement. C'est une entreprise sur les valeurs humaines, les valeurs sociales également. Alors, que cet événement-là arrive chez eux, ils ne pouvaient pas laisser ça passer et ça donne naissance à un concept parce que c'est comme ça qu'on va appeler ça dans les années subséquentes. Et ce qui sera intéressant, c'est de voir comment le type de geste qu'on va poser dans le futur. Puis c'est drôle que tu me parles de ça parce qu'évidemment, les gens qui nous écoutent sont probablement au courant de ce qui s'est passé hier. Vous avez une comédienne aux États-Unis qui, sur son compte Twitter, a tenu des propos visiblement racistes. Mm-hmm. Et très rapidement, ABC, dans ce cas-ci, a dit « Nous retirons l'émission ». Et tu sais, Eve-Marie, qu'on estime que cette décision-là, en termes d'annonceurs, parce que les cotes d'écoute étaient très, très fortes. Là,
ça doit être énorme, mais énorme.
On pense qu'on frise le 100 millions de dollars. Alors, c'est rendu qu'un message sur Twitter peut avoir ce genre de répercussions-là. Mais le calcul qu'a fait ABC, c'est si on ne retire pas l'émission, les annonceurs, eux, vont nous quitter. et peut-être qu'ils ne reviendront pas.
Donc, dans la guerre de la perception, c'est ça. Alors,
oui.
Comment ça va nous coûter la perception? Il faut agir vite maintenant. Mais tu vois, hein, il n'y a plus de place, là. Il n'y a plus de place pour des dérapages. Puis Roseanne Barr, elle a passé la nuit sur Twitter à essayer de s'excuser, à remercier ses fans. Elle dit qu'elle était sous l'influence de médicaments quand elle a envoyé son tweet qui aura été le tweet de la controverse et le tweet qui aura mené. Quand même, c'est un tweet hein, qui mène à l'annulation d'une saison complète d'une émission de télé. Faut le faire, Luc.
Oui, et il y a bien des gens qui pensaient jusqu'à hier, mettons au matin, là, qu'elle avait relancé carrément sa carrière. Parce que voici une actrice, là, pour ceux qui suivent un petit peu ça, qui était passablement disparue, là, on la voyait moins, mais qui était à l'origine d'un show qui était, à son époque, certainement très écouté, et qui avait généré, dès le retour en ondes, là, des codes d'écoute assez importantes, pour ne pas dire très importantes. Alors, pour ABC, hein, c'était dramatique, mais en même temps, tu parlais de Twitter, le PDG d'ABC et de Disney, parce que c'est possédé par Disney, lui, très rapidement aussi, sur son compte Twitter, a utilisé le même canal pour annoncer qu'elle avait été remerciée de ses services et qu'il n'y avait pas de place pour ce genre de déclaration-là sur Twitter ou tout court, peu importe la tribune. Alors, on est dans cette époque-là où tu parlais il y a deux instants de perception, Eve-Marie, on est dans cet univers-là, spécialement dans le domaine de la communication, spécialement aussi dans le domaine du marketing. Puis heureusement que ça existe, la perception, parce qu'on ne se parlerait jamais de marketing, évidemment.
C'est vrai.
Parce qu'on serait toujours avec la réalité plate et noir et blanc et pas particulière.
Et qui va gagner, selon toi, ce soir entre Vegas et Washington?
Ben, je pense que ce soir, c'est Washington. Les rumeurs veulent que les gars s'étaient peut-être amusés un petit peu à Vegas pour reprendre le fameux slogan de l'époque dans le cas de Washington. Je soupçonne que ce soir, on va être un petit peu plus sage.
Luc, c'est un plaisir de te parler cet après-midi.
Merci.
Salut. Luc Dupont, encore une fois, avec ses explications extraordinaires. Professeur de marketing à l'Université d'Ottawa.